DW. Pulsation.
Des manifestations antiracistes ont lieu dans de nombreux pays depuis le décès de George Floyd lors de son arrestation à Minneapolis. Cela réveille des polémiques autour de monuments glorifiant des figures du colonialisme. Nous parlons notamment du cas de la Belgique où les statues de l'ancien roi Léopold II sont controversées en raison des actes de cruauté qu'il a fait commettre au Congo. En fin d'émission, coup de projecteur sur le Sénégalais Ousmane Sembène. Mais tout d'abord, le mot du jour, manifestation. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
Le saviez-vous ?
Les protestations aux États-Unis et en Europe sont au cœur de l'actualité. Beaucoup d'images circulent de ce que l'on appelle des manifestations. Bref, explication de ce terme. Il vient du latin manifestatio, dérivé de manifestare, révélation, apparition. À l'origine, il était employé dans un contexte religieux pour parler du Christ. Aujourd'hui, on l'utilise toujours pour désigner quelque chose dont la présence se révèle ou apparaît, mais aussi pour désigner un acte collectif dont le but est de se prononcer en faveur ou en défaveur d'une cause, d'une opinion politique. La forme la plus courante est le rassemblement et la marche, en exprimant ses doléances ou ses incriminations à l'aide de slogans inscrits sur des pancartes ou scandés par la foule. Les manifestations peuvent être pacifiques ou violentes. C'est pourquoi les forces de l'ordre sont sollicitées pour contrôler l'événement. Sachant qu'aujourd'hui, les mouvements de masse peuvent être tellement importants qu'ils nécessitent des méthodes de plus en plus élaborées pour les organiser. Manifester est aussi un droit, inscrit notamment dans les articles 21 et 22 de la Convention internationale des droits civils et politiques. Dans la plupart des pays démocratiques, les lois autorisent les manifestations et la liberté d'expression considérées comme un contre-pouvoir. Conqueror, une chanson de Big Youth, extrait de leur album paru en 1988 et intitulé comme notre mot du jour, Manifestation. Vous écoutez la DW, c'est Pulsation, le magazine Jeune et Culture. La mort de George Floyd a déclenché une vague de protestations et de réflexions aux États-Unis et dans de nombreux autres pays à travers le monde. Pourtant, les appels à lutter contre le racisme sous toutes ses formes ne datent pas d'hier. Et l'un des sujets récurrents est celui des symboles historiques glorifiants, présents dans l'espace public, souvent urbain d'ailleurs, qui blessent les sensibilités des minorités confrontées à ce qui semble être une négation de l'injustice dont elles ont été l'objet. Aux États-Unis, le débat fait rage depuis des années sur l'héritage d'un passé illustré par de nombreux monuments à la gloire de l'armée confédérée qui, pendant la guerre de sécession, défendait le camp esclavagiste. Depuis les événements de Minneapolis, la colère étant à son comble, plusieurs statues ont subi des dégradations. Ainsi, en Virginie, l'un des berceaux de l'Amérique esclavagiste, le gouverneur souhaite déboulonner dès que possible la statue du chef de l'armée sudiste, le général Robert E. Lee, qui a été recouverte de slogans antiracistes. Même le révérend Robert W. Lee, un descendant du général, est favorable au démontage du monument à la gloire de son aïeul, considérant qu'il s'agit d'un symbole de l'oppression. Plusieurs autres statues centenaires ont déjà été enlevées officiellement, comme à Alexandria, ou détruites par des manifestants, comme à Montgomery, la capitale de la Virginie. En Europe, des débats similaires ont éclaté. Par exemple, en Belgique, un buste de l'ex-roi Léopold II a été vandalisé à Tervuren, alors que de nombreuses voix s'élèvent pour exiger le retrait de tous les monuments le représentant. Guido Grissels, le directeur du musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren, près de Bruxelles, tient Léopold pour responsable de la mort de millions de Congolais.
Donc maintenant, on a un regard beaucoup plus critique sur ce passé colonial. Il y a des milliers de gens qui sont décédés à cause de maladies, à cause de faim, de la famine, de travail forcé. Et donc, c'est une époque très noire dans l'époque du passé colonial belge. Et donc, le roi Léopold II, qui était le souverain à cette époque-là, en était le responsable ultime.
Or, pour les Belges d'origine congolaise, les Congolais qui vivent en Belgique, ou les membres de la diaspora africaine, être confrontés à la glorification de l'ex-roi est insupportable. Guido Grisels conçoit qu'on puisse en venir à des actes de vandalisme.
Je comprends entièrement parce qu'il y a très peu de discussions au niveau belge sur le passé colonial. Il n'y a quasi plus d'éducation dans les écoles sur le passé colonial. Notre gouvernement refuse de prendre position sur ce passé colonial. Bon, petit à petit, les esprits changent, mais très lentement.
Pour accélérer le mouvement, le musée de Tervuren est prêt à faire évoluer la présentation de ses monuments, sachant que ces expositions sont déjà en adéquation avec les réalités de la période coloniale.
Nous allons contextualiser ce statut. Aussi, dans notre musée, on présente quand même une interprétation du passé colonial qui est différente qu'avant. On se prépare aussi pour un nombre d'activités à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo le 30 juin. Mmh. Et donc, avec ça, on espère de pouvoir susciter un débat au niveau national sur nos relations avec l'ancienne colonie, le Congo.
Signalons au passage que les propos de Guido Grisels ont été recueillis par Sandrine Blanchard. Le Congo a donc été profondément marqué par les exactions du pouvoir colonial belge. On estime à près de 10 millions de morts le bilan de l'administration de Léopold II entre 1885 et 1908. Il n'est donc pas étonnant que le débat sur l'héritage culturel de cette période fasse rage en Belgique. Nombre d'associations militent en faveur d'un travail de conscientisation dans le pays et c'est le cas de BAM Cochrane, le comité de femmes pour l'interculturalité. Sa présidente, Mireille Choisy Robert, s'est entretenue sur le sujet, toujours avec Sandrine Blanchard.
Ça fait 20 ans qu'on sensibilise sur les questions décoloniales, antiracistes, etc. Et que nous savons bien qu'à un moment donné, ça va prendre racine et ça va péricliter dans la société, même si nous subissons une invisibilisation dans les médias nationaux. Et donc, la personne qui a lancé la pétition pour le déboulonnage de Léopold II est un jeune, presque enfant, de 14 ans. Donc, c'est un adolescent de 14 ans, Noah il s'appelle, et Noah a entendu les débats entre adultes, dans les débats ambiants, et donc du coup il s'est renseigné, et puis avec ses yeux d'enfant, il s'est dit, bah, c'est logique, il faut déboulonner cette statue. Donc voilà, les personnes qui lancent ces manifestations, qui les incitent, etc., c'est pas des vieilles personnes, c'est pas des personnes qui ont 50, 60 ans, etc., c'est généralement moins de 40 ans, et parfois la vingtaine. Donc, quelque part, j'ai l'impression que tout le discours et tout le travail de déconstruction qui a été fait pendant plusieurs années par plusieurs associations a donné ses fruits, parce qu'on aurait très bien pu avoir des manifestations partout et ne pas en avoir dans certains pays comme la Belgique. Mais si nous avons pu en avoir une, je pense que c'est aussi parce que ça a rencontré un terreau favorable, un terreau qui était déjà préparé.
Et pourquoi alors se focaliser sur des statues, notamment donc celle de l'ancien roi des Belges? Parce qu'on pourrait dire, bon, c'est un personnage historique qui est mort il y a plus d'un siècle. Peut-être qu'il y a d'autres symboles plus actuels encore. Pourquoi les statues?
C'est pas seulement l'histoire de Léopold II, le roi bâtisseur, qui a été chercher l'argent au Congo pour construire l'urbanisme belge. Non, c'est pas que ça. C'est aussi les meurtres injustes, le vol des biens culturels africains, c'est aussi des femmes éventrées pour retirer les fœtus, c'est aussi des crânes et donc des fœtus qui sont gardés dans des musées, dans des universités, etc. en Belgique. C'est aussi une histoire de violence tragique qui est racontée par les bourreaux. Et donc les victimes veulent faire partie de cette narrative. Et donc c'est à ça qu'on veut mettre fin. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas garder ces statues en l'état.
Donc vous parliez de vous réapproprier la narration ou la co-narration de l'histoire. Ça veut dire aussi donc, au-delà du symbole des statues dans l'espace public, revoir aussi les programmes scolaires, tout un tas de mesures très très vastes.
Ah oui, absolument. En fait, il faut voir tous les grands domaines importants de la vie sociale, scolarité, emploi, logement, expression culturelle, urbanisme. Il y a énormément de travail à mener et ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne commence même pas. On commence même pas. C'est des enfants de 14 ans qui doivent nous montrer la voie. C'est quand même humiliant pour la politique belge.
Notons que suite aux manifestations de ce week-end, une statue de Léopold II a été retirée d'un square aujourd'hui à Anvers pour être entreposée dans les réserves d'un musée local. Apparemment, les protestations portent leurs fruits. D'autres polémiques secouent les esprits aussi en Afrique. C'est le cas notamment au Sénégal, particulièrement à Saint-Louis, où la statue de Louis Federbe, ancien gouverneur de la colonie, est connue pour son passé sanglant au sein de l'armée française et renversée par des détracteurs en septembre 2017. Le monument, érigé depuis 1886 sur la place du même nom, non loin du pont du même nom. Sur le socle de la statue, on peut lire « À son gouverneur Federbe, le Sénégal reconnaissant ». Jusqu'aujourd'hui, les avis sont partagés sur son déboulonnage. En Afrique du Sud, en revanche, en 2015, la statue de Cecil Rhodes, grande figure du colonialisme en Afrique australe, avait été retirée de l'Université du Cap en 2015 après une vive polémique.
Coup de projecteur.
Il y a 13 ans, jour pour jour, s'éteignait à Dakar le Sénégalais Ousmane Samben, le 9 juin donc, écrivain, réalisateur, acteur et scénariste majeur de l'Afrique contemporaine. L'auteur d'une dizaine de romans et de films est connu pour ses partis pris militants sur les questions politiques et sociales. Dans les années 80, son long métrage « Camp de Tiaroy » reçoit le prix spécial du jury au Festival de Venise. Il y rend hommage aux tirailleurs sénégalais victimes d'un massacre en 1944 alors qu'ils réclamaient des indemnités et pensions après leur démobilisation. Le film ne sortira jamais en France. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Pulsation. Merci de l'avoir suivi. Vous accédez au podcast sur dw.com/français, rubrique médiathèque. Excellente suite de programme sur la DW et à très bientôt. Salut.